devastated Yemen, leaving at least 100,000 people dead. According to the United Nations, 80% of Yemen's 30 million people need some form of aid or protection. Biden's pledge came during a major foreign policy speech Thursday in which he vowed to get tough on adversaries like China and Russia while declaring America is back. We'll have more on Biden's foreign policy plan and the war on Yemen later in the broadcast. The United States reported more than 5,000 coronavirus deaths Thursday, a world record daily toll since the start of the pandemic. Daily confirmed cases continue to fall but remain stubbornly high, with nearly 130,000 new infections over the most recent 24-hour period. On Thursday, Johnson & Johnson asked the Food and Drug Administration for emergency use authorization of its single-shot COVID-19 vaccine. In a large clinical trial, the vaccine prevented 85% of severe cases of the disease. There were no deaths. In Tampa, Florida, the NFL has set official attendance at the Super Bowl at 25,000 fans. 30,000 cardboard cutouts will fill the other seats. It will be the densest crowd of any pro football game since the start of the pandemic, raising fears the Super Bowl could become a super spreader event. A quarter of U.S. adults who responded to a Seton Hall sports poll said they were planning on gathering with people from outside of their household to watch the game, despite warnings from the Centers for Disease Control. Here in New York, Yankee Stadium is opening today as a max vaccination site in the Bronx, one of the poorest areas of the country, which has the highest COVID-19 positivity rate in New York City. Vaccinations for frontline workers, including restaurant workers, taxi and rideshare drivers, will be limited to Bronx residents to prevent vaccine tourism. On Capitol Hill, Vice President Kamala Harris broke a 50-50 tie in the Senate this morning to approve a budget bill clearing the way for Democrats to pass a coronavirus relief package. The vote capped 15 straight hours of amendment votes in an all-night session nicknamed a Voterama. Overnight, Senate Budget Committee Chair Bernie Sanders deflected a bid by Iowa Republican Joni Ernst to force a vote on immediately doubling the federal minimum wage to $15 an hour, which she thought would fail. Sanders' move preserves a bid by Democrats to gradually double the minimum wage by 2025. At least one Democrat, Senator Joe Manchin of West Virginia, is on the record opposing a minimum wage of $15. Next week, House Democrats expect to introduce a coronavirus relief package similar to President Biden's $1.9 trillion proposal. Democrats are planning to pass the legislation using the budget reconciliation process, which needs the approval of a simple majority of the senators, which means it could pass with no Republican support. Dozens of Democratic lawmakers have proposed a resolution demanding President Biden use executive action to cancel up to $50,000 in student debt for all borrowers. Such a move would wipe out student debt for 36 million people. The resolution was unveiled Thursday by Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senator Elizabeth Warren, and several progressive House Democrats. This is Congressmember Ilhan Omar.
Millions of Americans can't afford to put food on the table and feed their families. Millions can't pay rent and face housing insecurity. Millions lost their jobs during the pandemic and can't afford basic necessities. The last thing people should be worried about is their student debt.
The House of Representatives voted Thursday to strip Georgia Republican Congressmember Marjorie Taylor Greene of her committee assignments over her history of violent and racist rhetoric. 219 House Democrats voted in favor of sanctioning Congressmember Greene. All but 11 House Republicans voted against taking such action. Ahead of the vote, Congressmember Greene refused to apologize for her past remarks, including support for murdering House Speaker Nancy Pelosi and anti-Muslim and anti-Semitic comments. During an 8-minute speech from the House floor, Greene said school shootings are absolutely real, 9/11 absolutely happened, and claimed she had stopped believing in the QAnon conspiracy theater later in 2018.
What shall we do as Americans? Shall we stay divided like this? Will we allow the media that is just as guilty as QAnon of presenting truth and lies to divide us?
According to the QAnon conspiracy theory promoted by Congressmember Green, Donald Trump was working secretly to overthrow a cabal of deep state officials and a child sex trafficking ring of satanic pedophiles and cannibals. During Thursday's debate, House Majority Leader Steny Hoyer displayed a poster showing an image which then-candidate Green shared to Facebook in September. In the photo, Green brandishes an AR-15 assault rifle next to the faces of Congressmembers Ilhan Omar, Rashida Tlaib, and Alexandria Ocasio-Cortez. The post was captioned, "Squad's Worst Nightmare." This is Democratic Congressmember Cori Bush of Missouri, who last month moved her office away from Marjorie Taylor Greene's for her team's safety.
We cannot build an equitable anti-racist education system if a seated House Education and Labor Committee member incites violence through the perpetuation of racist lies in an attempt to overturn an election. We cannot build an equitable anti-racist society if a member of Congress endorses white supremacy.
Before, Congressmember Green said she believed that the massacres at Sandy Hook and Parkland happened, she had said she believed that they were staged. New York Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez is calling on Congressmember Green to be expelled from Congress after she sent out a fundraising email filled with lies about progressive Democrats, including that AOC told protesters to punch a cop. Ocasio-Cortez spoke from the House floor Thursday about the danger of ignoring or minimizing survivor accounts of the January 6th insurrection at the U.S. Capitol.
Some are already demanding that we move on, or worse, attempting to minimize, discredit, or belittle the accounts of survivors. In doing so, they not only further harm those who were there that day and provide cover for those responsible, but they also send a tremendously damaging message to survivors of trauma.
We'll hear more from AOC later in the broadcast. In related news, former President Trump has refused a House call to testify next week at his impeachment trial in the Senate for inciting an insurrection. The voting technology company Smartmatic is suing Fox News, some of its hosts, and two of Trump's former lawyers, Rudy Giuliani and Sidney Powell, for $2.7 billion, accusing them of spreading lies that Smartmatic helped steal the election from Trump. Giuliani and Powell have also been sued by voting machine manufacturer Dominion for spreading election fraud conspiracy theories. In Brazil, the prosecutor general is investigating the government of far-right President Jair Bolsonaro for a possible negligence in its response to the devastating COVID-19 outbreak in the state of Amazonas, which saw hospitals in Manaus run out of oxygen and stretch beyond breaking point. Meanwhile, Bolsonaro has come under attack from officials across the political spectrum after Brazil scrapped its car wash operation, an anti-corruption task force started in 2014. Last year, Bolsonaro announced it was being disbanded because there's no corruption in his government. The Biden administration suspended the deportation of dozens of African asylum seekers at the last minute Wednesday, following new allegations that Immigration and Customs Enforcement, that's ICE agents, tortured them into signing their deportation orders. The Guardian reports the asylum seekers, who are Congolese, Cameroonian and Angolan, may now be interviewed as witnesses while the allegations are looked into. One of the asylum seekers was reportedly placed in a room with darkened windows as agents grabbed the asylum seeker by the neck and back. They said, quote, "I told them, please, I can't breathe. I asked them to release me. They said that they didn't care. What they need is my fingerprint." A new congressional report has found some baby foods have dangerous levels of toxic heavy metals, including arsenic, mercury and lead. The House Oversight Panel found these metals in rice cereals, juices, sweet potato puree and other products made by Gerber, Nurture, Hain's Celestial Group and Beechnut Nutrition. Campbell's Soup, Walmart, and Sprout Foods declined to cooperate in the investigation. The FDA is reviewing the report's findings as the congressional committee is urging stricter standards on baby food. Consulting giant McKinsey has agreed to a $573 million settlement in a lawsuit over the company's work advising Purdue Pharma and other drug makers to aggressively market highly addictive opioid painkillers. The deal, made with 47 states, Washington, D.C., and five territories, is the first national settlement as part of sweeping litigation filed by state, county, and local officials in recent years to hold companies responsible for the devastating opioid epidemic. A warning to our audience, the next headline contains disturbing details and images. The incarcerated activist Kinetic Justice, who Democracy Now! Interviewed in 2016 during a nationwide prison strike, was severely beaten last Saturday by guards at the Donaldson Correctional Facility in Bessemer, Alabama. Witnesses say Justice tried to defuse an altercation after guards struck a mentally ill prisoner unconscious with an axe-like baton. Video shows pools of blood and a dislodged tooth in the cell. Both men were airlifted to a trauma center in Birmingham before being returned to prison Monday. Democracy Now! Spoke to Kinetic Justice's mother, Ernestine Counsel, after he was allowed to call her Wednesday and described his injuries.
And his eye was swollen shut. Well, he had got hit in his eye, and that he had broke ribs, and two broke ribs, and bruises where they done beat him on the back of his head, his shoulder, his back, and on his thigh. Those are the injuries that I know that he told me that he had, and severe, they beat him badly. But thank God that he's yet alive.
In December, the Justice Department filed a major lawsuit against Alabama's Department of Corrections for excessive use of force by staff in a dozen prisons after an investigation detailed incidents such as a guard beating a handcuffed prisoner in a medical unit while shouting, quote, "I am the Reaper of Death, now say my name." Guards involved in last weekend's attack are now on leave, and the FBI may investigate. And in labor and education news, the Chicago Teachers Union and the country's third largest school district remain at an impasse over a return to in-person teaching as teachers consider a possible strike over demands for safe working conditions during the pandemic. The Teachers Union and Chicago Mayor Lori Lightfoot, who's pushing to reopen schools, traded barbs Thursday with the mayor, saying talks are moving backwards. This is Mayor Lightfoot speaking at a news conference Thursday.
Do the right thing for our kids in this difficult time, black and brown kids who look like me, coming from circumstances like the one that I grew up in, who are struggling and are failing. We are failing those children by not giving them the option to return to school.
The Chicago Teachers Union responded on Twitter, quote, "One of the more disappointing moments from the mayor's press conference was her accusation of fear-mongering when there have been 230,000 positive cases and nearly 5,000 deaths from COVID in her city. How do you explain fear-mongering to those families?" Unquote. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report.
à tous. Et non, vous n'avez pas la berlue, c'est Benoît Lemire qui est au microphone pour l'animation de ce balado, en remplacement de Nathalie Marceau, qui prend un répit bien mérité. Pour cet épisode, on reçoit Violaine Masson, pharmacienne au CIUSSS de l'Est de Montréal, notamment à l'Institut de santé mentale, communément appelé Louis-Hippolyte Lafontaine, et aussi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi chargée d'enseignement à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. Tu consacres ta pratique aux soins des maladies psychiatriques. C'est pas un épisode sur la COVID, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander comment ça se passe sur tes différentes unités depuis le début de la pandémie.
Ben merci Benoît, la question. C'est quand même difficile pour les patients parce que c'est comme un double confinement. Déjà, être hospitalisé en psychiatrie, c'est pas agréable. Puis tous nos patients passent par des unités tièdes pendant 14 jours avant d'aller dans des unités froides. Donc, ils sont confinés à leur chambre. Ils ont vraiment très, très peu d'occasion d'en sortir. Donc, c'est sûr que si on est hospitalisé pour une dépression, ça fait comme partie du traitement de sociabiliser, de voir des gens, de sortir. Alors que là, ben, le confinement impose aux patients d'être encore moins sociable. Par contre, il y a quelques points positifs. Il y a beaucoup moins de drogue qui circule sur les unités parce que les patients ont moins de sorties, puis ils ont moins l'occasion d'être à moins de 2 mètres d'un autre patient puis d'échanger. Fait que ça, c'est peut-être le seul point positif, mais la consommation des patients en dehors de l'hôpital a augmenté. Là, je peux pas dire que ça a diminué.
Bon, ben, on va entrer dans le vif du sujet. Avant d'être un trouble, l'anxiété, c'est aussi un symptôme. On remarque souvent que l'anxiété accompagne une autre maladie psychiatrique. Quand est-ce qu'on détermine que l'anxiété, c'est vraiment une pathologie en soi plutôt qu'un symptôme d'une autre maladie?
Bien, en fait, le stress aigu, c'est vital. C'est même normal. C'est une réaction qui sert à quelque chose. C'est un peu pour ça aussi que dans l'évolution, il y a encore des anxieux. Il y a autant de gens qui ont de l'anxiété. Pourquoi si c'est maladaptif, ça a perduré? Bien, c'est que l'anxieux dans l'homme des cavernes disait, ben, on ne devrait pas sortir, il y a peut-être des lions qui vont nous manger. C'est quand même utile, l'anxiété. Quand c'est un stress chronique, c'est maladaptif, puis la définition de tous les troubles anxieux comprend un point qui dit que ça cause une souffrance ou un dysfonctionnement majeur dans la vie du patient. Ça fait que le patient n'est plus capable de vaquer à sa vie et de vaquer à ses occupations normalement. Donc, il y a des anxieux qui fonctionnent, qui sont compensés, mais c'est quand c'est un problème dans la vie de tous les jours que ça devient une pathologie.
Il y a plusieurs déclinaisons des troubles anxieux. Est-ce que tu peux me parler de ces déclinaisons-là?
Dans le DSM-4, on les appelait tous troubles anxieux, puis dans le DSM-5, il y en a quelques-uns qui sont dans les chapitres séparés, mais pour les besoins de la présentation aujourd'hui, on va tous les appeler troubles anxieux. Il y a le trouble anxieux généralisé, donc la personne qui a des inquiétudes excessives pour toutes sortes de domaines. Il y a le trouble panique, donc les gens qui ont des attaques de panique, plus qu'une attaque de panique, et aussi qui ont très peur de faire d'autres attaques de panique. Donc, ils vont éviter de se mettre dans des situations pour avoir des attaques de panique, qui vont éviter de sortir de chez eux, par exemple. On peut avoir aussi une phobie spécifique ou une phobie sociale. Donc, les phobies spécifiques, je pense qu'il y a plein de gens ici qui n'aiment pas nécessairement l'avion ou qui n'aiment pas nécessairement les araignées, mais ça ne va pas vous causer de l'évitement. Vous allez quand même être capable de vous asseoir dans l'herbe, dans un parc, parce que vous n'aurez pas nécessairement si peur que ça d'une araignée. Il y a les troubles reliés au trauma, donc le stress post-traumatique qui est, d'une certaine façon, la réexpérience du trauma de façon physique, de l'hypervigilance. Essentiellement, c'est ça, là. Donc, il faut être exposé à un trauma et comme revivre de façon constante le trauma, comme si on le ressentait encore. Puis les troubles obsessifs compulsifs, là, où le classique, là, on pense à la personne qui va se laver les mains 15 fois de suite, qui a une obsession, dans le fond, de la propreté ou une obsession de ne pas attraper de germes et qui va avoir des compulsions, donc différents rituels ou différentes répétitions de mouvements ou de choses pour diminuer d'une certaine façon son anxiété.
Toutes ces maladies-là, ça se prévient?
Bien, c'est sûr que est-ce que ça se prévient? Si on était capable de demander une nouvelle paire de chromosomes ou des gènes différents, on pourrait peut-être prévenir, là. Donc, il y a une partie qui est génétique sur laquelle on a peu de pouvoir. Il y a une partie qui est développée par l'environnement. Donc, c'est sûr que ça va un peu ensemble. Hein. Souvent, si on a des parents très anxieux qui vont nous élever d'une certaine façon, en étant très anxieux, en ayant très peur qu'il nous arrive quelque chose comme enfant, bien, ça va tendance à nous faire devenir plus anxieux. Il y a certains troubles là, comme le stress post-traumatique où on a fait différentes études pour essayer de prévenir ça si on est exposé à un trauma. Donc, il y a des choses qui aident pas. Par exemple, de faire un debriefing après un gros événement traumatisant puis de s'asseoir tout le monde ensemble puis d'en parler, ça n'aide pas, puis même ça peut nuire. Puis il y a certaines études là où on a donné, par exemple, du propranolol à des soldats avant d'aller au front pour essayer de diminuer le stress post-traumatique, puis ça marche jusqu'à un certain point, là, mais c'est pas déployé à grande échelle. Fait que ça peut se prévenir d'une certaine façon par une éducation puis des mesures cognitivo-comportementales, mais c'est sûr qu'il y a une partie génétique sur laquelle on a peu de pouvoir.
Puis est-ce que c'est toujours une sentence à vie?
Bien, c'est sûr que ça, c'est considéré comme des maladies chroniques, donc ça prend généralement un traitement pour en venir à bout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un trouble anxieux qui va diminuer l'intensité pour devenir à la limite d'être cliniquement significatif ou qui vont être capables de compenser puis d'avoir leur stress à un niveau acceptable ou avec des thérapies cognitivo-comportementales et tout ça. Ou bon, c'est les médicaments, mais c'est sûr que les médicaments, quand on les arrête, ben l'anxiété peut revenir, là. Puis je dirais que dans le voie avec la pandémie, il y a plein de gens qui, je pense, étaient comme compensés, là. Tu sais, avaient un certain contrôle sur leur vie. Les risques de leur vie étaient d'une certaine façon à un niveau acceptable pour eux. Puis là, la pandémie, puis tous les changements, toutes ces choses-là sont difficiles pour ces gens-là. Encore plus que, ben, le son pour tout le monde, je pense, là, mais le son de façon supplémentaire pour les anxieux parce qu'on a, tu sais, zéro contrôle, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne sait pas. Bien là, c'est sûr qu'on a les vaccins, tout ça qui s'en viennent, là, mais on ne sait pas exactement ce que ça va faire, si on va l'attraper, si notre famille va l'attraper, qu'est-ce qu'on va développer comme symptômes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plein d'anxieux qui, je pense, allaient bien avant et là, vont peut-être moins bien.
Oui, mais tu as parlé des facteurs génétiques, entre autres. Est-ce que il y a des caractéristiques particulières qui prédisposent. Là, on a souvent en tête les femmes âgées qui prennent des anxiolytiques de façon chronique. Est-ce que c'est un stéréotype ou il y a vraiment des particularités là, qui permettent de prédire en quelque sorte?
C'est pas la pathologie mentale la plus génétique dans le sens que les études de jumeaux ne démontrent pas 100% de concordance et tout, là. Mais oui, c'est à peu près deux fois plus les femmes que les hommes. C'est pas un seul gène qui entre en ligne de compte. Donc oui, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui sont associés à ça, mais comme il n'y a pas un seul gène, puis que c'est multifactoriel, puis aussi la composante épigénétique qui s'ajoute à ça, c'est dur de faire un portrait type qui représente tout le monde. Fait que oui, il y a plus de femmes, puis oui, les femmes âgées, ben je pense que c'est aussi une question d'habitude de prescription. Je pense que il y a 30-40 ans, c'était acceptable de prescrire des benzodiazépines avec des renouvellements à vie, puis ces personnes-là qui sont habituées à ça veulent pas qu'on les enlève, là. T'sais, ils peuvent vieillir avec ça, puis on se retrouve avec une prescription inappropriée qui... Si on était en 2020, on partirait pas ça à cette classe de patientes-là.
Bon, ouais. Bien, parlons donc des mesures non pharmacologiques. C'est quoi le rôle de ces mesures-là dans le soin des troubles anxieux? Est-ce que le pharmacien peut en faire ou si ça prend un psychologue, par exemple?
Bien, c'est sûr que si on veut une psychothérapie qui va traiter, guérir ou contrôler suffisamment un trouble anxieux, ça prend quelqu'un de formé pour ça. À moins d'avoir fait une formation supplémentaire comme pharmacien, c'est pas suffisant. Mais c'est sûr que je pense que la façon d'expliquer le médicament, de rassurer le patient, de lui expliquer à quel moment ça va fonctionner, de rassurer sur les effets secondaires, lesquels sont permanents, temporaires, lesquels s'estompent facilement avec certaines mesures, je pense que ça aide beaucoup les gens qui ont un trouble anxieux à passer à travers les premières semaines de leur traitement avant que ça fasse effet. Mais pour les mesures non pharmacologiques, la plupart, c'est de la psychothérapie. Différents types de psychothérapie selon le trouble, mais la cognitivo-comportementale est quand même utile pour l'extrême majorité des troubles. Mais ça, oui, ça prend un psychologue, ça prend un bon lien, puis ça prend plusieurs séances, là, pour avoir des effets. Puis ça se compare aux médicaments en termes d'efficacité. Par contre, ben, les médicaments, ça va faire effet le temps qu'on va les prendre. Puis si on ne fait pas de psychothérapie, il y a des grosses chances que le trouble revienne à l'arrêt du médicament.
Mais est-ce que je te comprends bien si je dis qu'il faudrait toujours utiliser la psychothérapie puis la pharmacothérapie en même temps?
Bien, pas nécessairement. Il y a des patients qui sont pas prêts à faire la psychothérapie. Il faut quand même travailler. Puis la psychothérapie, des fois, la pharmacothérapie, on la fait au début pour comme atténuer une partie des symptômes. Par exemple, il y a des psychothérapies pour le tas de stress post-traumatique où c'est essentiellement de s'exposer à des choses qui font repenser au trauma. Par exemple, tu es un vétéran, un stress post-traumatique par rapport à des choses que tu as vues à la guerre, puis ton exposition, ça va être de voir des films de guerre sans arrêt ou de faire des choses qui vont te remettre dans le trauma. Fait que c'est quand même assez souffrant. Faut le faire de façon encadrée avec un psychologue. Faut vouloir aller mieux. Faut aller assez mal pour vouloir aller mieux, là, d'une certaine façon. Je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt au jour 1 à faire ce qu'il faut de psychothérapie pour en voir les résultats. Fait que la pharmacothérapie peut aider beaucoup. Puis il y a des gens qui vont préférer juste l'une ou l'autre ou qui vont pas répondre à certaines options. Puis c'est très correct aussi, là. Mais okay. Oui, la combinaison, c'est quand même dans un monde idéal. Juste la psychothérapie, si on a le temps, là, si on est assez patient, puis on n'a pas trop de dysfonctionnement, puis on a envie d'essayer ça plutôt qu'un médicament. Là.
Bon, ben, tu parles de médicaments, là, on va aborder le sujet. Ouais. Peut-être qu'on peut y aller par sous-type de trouble anxieux, si tu veux. On pourrait parler de l'anxiété généralisée pour commencer. Je pense que c'est le trouble le plus prévalent.
C'est le trouble le plus prévalent, puis c'est celui aussi qui a le plus d'options si on veut. Là, ben, c'est sûr que dans le stress post-traumatique, il y a certaines options particulières, mais essentiellement dans le trouble anxieux généralisé, il y a des antidépresseurs, les ISRS, les IRSN, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou de la sérotonine norépinéphrine. Il y a certains autres antidépresseurs. Puis, il y a aussi d'autres molécules comme la prégabaline. Il y a aussi la quétiapine, puis il y a la buspirone. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses, puis des classes différentes. Je dirais que c'est peut-être le trouble anxieux où il y a le plus de choix de molécules.
Oui, tu m'as pas parlé encore de benzodiazépines. Ouais. Moi, j'ai appris dans mes cours au siècle précédent là, qu'il fallait utiliser les benzodiazépines avec parcimonie à cause du risque de tolérance. Puis d'habitude, pourtant, tu sais, on voit beaucoup de ces patients-là qui prennent des benzodiazépines. Puis honnêtement, ils ont l'air d'aimer ça. Est-ce que c'est toujours une mauvaise pratique?
Bien, tu sais, ça fait effet rapidement, contrairement aux autres molécules. Ça fait effet, tu sais, dès la première dose. Puis, ça dépend du trouble anxieux. Fait que pour le trouble panique, d'avoir toujours une benzodiazépine au besoin, si jamais il y a une attaque de panique, ça peut être correct, là. Sauf que la plupart des patients, leur trouble panique va culminer en quelques minutes, puis même le temps que la benzodiazépine fasse effet, qui est prise, c'est au besoin. Ça ne fait pas effet si vite que ça. Mais je pense qu'il y a une partie d'effet placebo, il y a une partie d'effet de soulagement par après, là. Puis dans le trouble anxieux généralisé, il y a quand même des données avec les benzos. L'effet anxieux est un peu moins estompé à long terme là, par rapport aux effets sédatifs puis aux autres effets des benzodiazépines. Fait que ça peut être un choix. Par contre, dans le stress post-traumatique ou dans le TOC, c'est vraiment moins un bon choix, les benzos. Un, ça aide pas, puis deux, ça crée de la dépendance quasiment tout le temps. T'sais, ça aide partiellement les quelques minutes et tout ça, là, mais ça n'aide vraiment pas le stress post-traumatique. Puis même chose pour le TOC. Fait que, t'sais, en 2020, ça devrait être des molécules réservées pour le début de traitement, là, avant que l'autre pharmacothérapie fasse effet. Puis vraiment, un PRN très avec parcimonie, puis t'sais, vraiment le moins possible. Dans le stress post-traumatique, c'est quasiment tout le temps nuisible, là, fait que ça devrait quasiment jamais être prescrit. Là. Surtout que ça aide pas l'architecture de sommeil. Puis dans le stress post-traumatique, l'extrême majorité des gens ont des cauchemars puis ont des problèmes de sommeil. Là.
OK, bien écoute, tu me parles de stress post-traumatique. Peut-être qu'on peut approfondir cette question-là. On imagine bien ce que c'est que d'avoir vécu un traumatisme. Peux-tu nous dire quand est-ce qu'on appelle ça un syndrome, une maladie?
C'est sûr que tous les troubles anxieux ont une question de temps. Donc, il faut que ça fasse un certain temps que les symptômes qui restent. Dans le stress post-traumatique, il faut que ça dure, je pense que c'est plus que un mois, puis il faut avoir les symptômes d'hypervigilance. Ben, il faut être exposé à un trauma ou le voir. Là, si c'est pas nous-mêmes qui avons vécu le trauma, il faut voir où il y a certaines exceptions, comme par exemple des coronaires ou des policiers qui voient sans arrêt des scènes violentes. Il faut faire un évitement des stimuli associés. Puis avoir des distorsions cognitives, il faut que ça dure depuis plus qu'un mois. Fait que c'est normal si vous vivez un événement traumatisant et stressant, que dans le premier mois, vous ayez des moments où ça va pas bien. Mais tu sais, si c'est vraiment, ça vous cause un dysfonctionnement, que vous êtes plus capable de sortir de chez vous, que vous avez envie de frapper dans le mur à chaque fois que, je sais pas moi, vous entendez un bruit qui vous fait penser à ce trauma-là, bien là, c'est problématique. Là, c'est la différence entre un stress post-traumatique puis quelqu'un qui vit un trauma, qui n'a peut-être pas envie d'en parler pendant 2 heures tous les soirs, mais qui est capable de continuer de vivre.
Tout à l'heure, tu m'as parlé pour le stress post-traumatique de propranolol. J'ai entendu parler du prazosin aussi pour soigner ça. C'est un peu bizarre. C'est pas des médicaments qu'on utilise habituellement en psychiatrie ou dans l'anxiété. Peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise des médicaments de ces catégories-là?
C'est un peu, dans le fond, le stress post-traumatique, c'est comme si notre boucle noradrénergique de notre cerveau reptilien, là, pas le cortex, là, mais ce qui est plus enfoui dans notre cerveau, notre boucle noradrénergique continuait de lancer des influx noradrénergiques constants pour qu'on soit en hypervigilance, puis pour, au fond, faire en sorte qu'on se retrouve pas dans une autre situation traumatisante. Hein. Fait que c'est un peu ça que notre cerveau fait, mais notre cerveau continue à envoyer des signaux de détresse et d'alarme alors qu'on n'est plus dans le trauma. Donc, c'est ça qui est pathologique. Fait que ces molécules-là vont jouer sur, par exemple, les récepteurs alpha. Le prazosin, c'est alpha 1 adrénergique. Ça va au SNC, puis ça fait en sorte d'aider les troubles du sommeil, d'aider le traitement cognitif du stress par le cortex préfrontal. Ça vient comme bloquer un peu cette hyperfonction noradrénergique-là.
Puis est-ce que les gens vont prendre ça à vie ou c'est durant un épisode en particulier puis qui peuvent soigner?
Le stress post-traumatique, si on a un traumatisme d'un certain niveau puis on a vraiment des bons symptômes, ça prend une psychothérapie pour adresser ça. Donc, les médicaments vont, mettons, le prazosin va faire en sorte qu'on va continuer à avoir des rêves, mais pas nécessairement tous des cauchemars reliés au trauma parce que ça fait un certain cercle vicieux. Le patient est fatigué, il est stressé toute la journée, il finit par s'endormir, il fait des cauchemars qui lui refont penser au trauma. C'est ultra stressant, t'as plus envie de dormir, mais t'es fatigué, donc ça rend tout l'état de la personne encore pire. Donc, ce qu'on va faire en psychothérapie, c'est qu'on va désensibiliser la personne à ça ou on va, tu sais, dans un lien thérapeutique, on va revivre des moments du trauma, puis essayer de faire en sorte que le cortex préfrontal, ou que notre cortex, que notre cerveau plus intellectuel défasse des choses par rapport à ça et traite l'information et réalise qu'au fond, qu'on n'est plus dans le trauma, là, qu'on n'est plus dans une situation stressante.
Tu parles de situation stressante. Là, on dirait que notre réflexe dans ce temps-là, c'est de donner des benzodiazépines là, quand on est dans une phase aiguë. Puis là, tu m'as dit tout à l'heure que ça marchait pas, en fait, que ça empirait les choses. As-tu bien compris?
La plupart des données sont négatives. Les risques sont plus grands que les bénéfices. C'est vraiment du très, très court terme. Et mettons, le stress post-traumatique, on a découvert que, mettons, tu es avec ton conjoint, ta conjointe, tu conduis, tu fais un accident, ton conjoint et ta conjointe décèdent sous tes yeux. Si je te donne une benzo pour t'aider à passer à travers les prochaines semaines, je ne vais pas diminuer ton risque de stress post-traumatique, je vais même potentiellement l'augmenter. T'sais, c'est parce que ça change ton architecture de sommeil, ça change la façon dont ton cerveau va traiter l'information. Ce n'est pas utile. Puis l'extrême majorité des patients vont devenir dépendants de ça. Puis l'effet des benzos sur l'architecture du sommeil, dans le fond, ça va pas faire en sorte qu'on va moins avoir de cauchemars, moins rêver ou mieux dormir. Ça va être plutôt le contraire. Donc, c'est vraiment pas souhaitable.
Donc, quand on anticipe qu'un patient pourrait développer un choc post-traumatique des suites d'un événement là, important qu'il a subi, on devrait choisir d'autres choses pour traiter la phase aiguë, là, où est-ce qu'il nous consulte parce qu'il se sent très anxieux. Qu'est-ce que tu proposes?
Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de bon, là, honnêtement, pour le début de la phase. Là. Puis c'est plus de surveiller le patient. T'sais, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui est démontré c'est en phase aiguë après ça qui est efficace. Puis toutes les mesures qu'on pensait qui étaient bonnes, là, comme de faire des débriefings, puis d'aller s'asseoir avec un psychologue, puis d'en parler plusieurs fois, c'est pas nécessairement bon. Mais après quelques semaines, je pense que quand la personne veut en parler, puis digérer un peu ça, là, oui, ça peut être adéquat. Là. Puis là, oui, si la personne a un niveau de symptômes de stress post-traumatique, ça peut être adéquat de donner un médicament. Mais honnêtement, tu sais, je sais qu'on est des pharmaciens, là. Il faut comme résister à l'envie de donner quelque chose pour aider la personne à passer à travers ça. Ça ne va pas l'aider, même ça va okay. lui nuire, tu sais.
Donc, par exemple, tu sais, le zopiclone, le trazodone, ces choses-là, ce n'est pas nécessairement les meilleures alternatives, là.
Non plus, non. Il y a des molécules que je ne peux pas dire qu'il y a d'études en aigu qui dit que ça nuit, là. Fait que, tu sais, si on veut vraiment donner quelque chose, mais honnêtement, je ne pense pas que ça va tant aider. C'est un peu comme normal de ne pas bien dormir, puis c'est un peu normal de, tu sais, c'est plate à dire, là, mais c'est comme une réaction normale. Tout comme quand quelqu'un vit un deuil, c'est pas toujours une pathologie. Tu sais, je comprends que des fois, on veut dire peut-être que la personne est en train de faire une dépression, mais c'est comme une réaction un peu normale. Donc, on peut pas tout enlever les émotions négatives reliées à des choses, des gros événements majeurs. Il faut comme attendre un peu, puis voir après ça qu'est-ce qui se développe, puis qu'est-ce qui reste. Ce qui veut dire, par contre, là, que quelqu'un qui a déjà fait un stress post-traumatique, qui a déjà fait une dépression majeure, on n'attendra peut-être pas de le voir pas bien aller pendant un mois dans son coin sans rien faire non plus. Là, tu sais, on peut commencer un traitement d'entretien un peu plus tôt que ça. Mais je veux dire, il n'y a comme rien à faire au jour 1 qui est prouvé, genre très, très efficace et tout ça qui va permettre à la personne de sauver un peu de la réaction normale à l'événement traumatisant ou stressant. Là.
OK, c'est plus clair. J'ai l'impression de changer un peu de sujet, mais j'aimerais absolument aborder le trouble obsessif compulsif. Ouais. Pour moi, c'est comme une entité un peu à part des autres. Là. Je ne sais pas si tu peux m'aider à me démêler. Là. C'est quoi la différence entre une obsession et une compulsion? Tu en as parlé un petit peu au début, là, mais juste pour que ce soit bien clair.
Bon, ben l'obsession, ça va être des pensées. En fait, l'extrême majorité, c'est des pensées, mais des fois, ça peut être des impulsions ou des images que la personne va avoir. Donc, généralement, c'est désagréable. Là. Donc, ça peut être des images de choses dégoûtantes ou tout ça qui nous reviennent comme un peu en tête, là, des espèces de dépressions, ou ça peut être des pensées tout à fait rationnelles, du genre « j'ai peur que je mette le feu à la maison » ou « j'ai peur d'attraper tel virus ». Puis la personne va essayer de ne pas tenir compte de cette obsession-là par des compulsions, qui sont des comportements répétitifs, des espèces de rituels ou des actes mentaux répétés, genre compter 8 fois ou pas marcher sur les cracks de trottoir ou tout ça, ou prier, compter ou passer absolument à la droite des personnes qu'on croise pour essayer de diminuer ces obsessions-là. Les personnes, la plupart du temps dans le TOC, sont conscientes du caractère un peu futile de ça. Tu sais, la personne sait que, quand bien même qu'elle vérifierait 8 fois que le four est fermé ou que la porte est barrée, tu sais, vérifie 1 ou 2 fois, ça aurait été assez, mais elle a comme besoin de le faire un certain nombre de fois parce que elle considère que ça ne le fait pas ce nombre de fois-là, son anxiété monte trop et son obsession prend trop de place.
C'est particulier, hein? Puis dans les soins, moi, j'avais appris qu'il fallait utiliser des doses élevées, pour des doses d'antidépresseurs élevées. Ça fait un peu peur d'utiliser des doses élevées. C'est quoi les doses élevées pour toi? Est-ce que c'est comme les doses maximales qu'on voit dans le compendium ou plus encore?
Ouais, c'est ça. Bien, je dirais que si on regarde certaines lignes directrices qui ont regardé les données, c'est plus aussi clair qu'il faut absolument pour avoir la dose max. Par contre, c'est un trouble qui est plus souvent résistant. Il y a beaucoup de patients qui voient une différence dans le dernier 10-20% d'augmentation de dose. Fait que je pense que ça vaut la peine pour plusieurs troubles anxieux, mais surtout pour ce trouble-là, de faire de pas juste viser la dose minimale efficace, mais quand on titre la molécule, de viser la dose maximale tolérée. De toute façon, l'efficacité va être longue avant d'arriver, si elle arrive. T'sais, on ne fait pas viser une dose d'antidépresseur comme en dépression. On vise c'est à peu près la dose max tolérée ou la dose max selon la fonction rénale, les interactions que le patient présente. Puis oui, moi, je suis assez vieille pour avoir connu du citalopram 80 mg. Là, si on regarde les premières études, c'était donné même en dépression tout ça, puis les patients ne sont pas morts. Là. Je veux dire, je comprends qu'il y a le QT aussi. Je ne dis pas d'utiliser des doses au-delà de la monographie pour ça. Il y a une implication médico-légale à le faire, mais je pense que c'est correct d'aller à la dose maximale de la monographie pour le patient moyen qui le tolère. Puis après ça, de regarder si ça fonctionne, puis si ça fonctionne, puis s'il y a des effets secondaires, bien là, après ça, on peut essayer de diminuer un tout petit peu la dose. Mais le problème, si on fait juste viser une dose minimale ou une dose moyenne, c'est que ça va nous prendre 6 mois à essayer une molécule, puis, tu sais, on n'aura même pas essayé la molécule jusqu'au bout. C'est pour ça que, oui, on vise la dose maximale tolérée, puis ce qui peut souvent être la dose maximale monographie. Dans quelques rares cas, des fois, on pourrait dépasser la dose maximale, mais c'est sûr que je ne le recommande pas, là. Mais ça peut arriver qu'il y ait des patients qui essaient ça, puis si on essaie de diminuer, il faut vraiment documenter au dossier qu'après ça, on a essayé de diminuer un petit peu la dose, puis que là, le patient a rechuté ou allait vraiment pas bien, là. Je pense que chez certains patients, ça peut être correct, mais il faut vraiment très, très bien le documenter, puis être sûr qu'ils le tolèrent, puis que ça ne les met pas à risque de d'autres problèmes, là.
Bien, ça m'amène un peu, j'aimerais ça revenir sur les troubles anxieux en général. Là. Bien, justement, ouais. Celui-là, le trouble obsessif compulsif, ça m'apparaît comme un trouble peut-être plus grave, mais quand même, mais est-ce qu'il y a des situations en trouble anxieux où est-ce qu'on devrait référer à l'urgence, là, ou si on peut toujours gérer ça dans la communauté, là, avec des suivis, avec un médecin de famille, par exemple?
C'est rarement l'hospitalisation qui va être bénéfique. Il faut qu'il y ait vraiment un très, très gros problème de fonctionnement pour que le trouble anxieux ait besoin d'être hospitalisé. Parce que, un peu, d'une certaine façon, les patients vont d'eux-mêmes se retirer de tout ce qui déclenche leur anxiété puis s'isoler chez eux, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour la plupart des patients. Mais c'est sûr que si ça nuit au fonctionnement au point où la personne sort plus jamais de chez elle, ne mange plus, dépérit. Là, oui, ça peut être adéquat de la référer, mais comme il n'y a pas de traitement miracle non plus, c'est rarement une hospitalisation pour un trouble anxieux qui va être salutaire, mais ça peut l'être là, si la personne a vraiment, vraiment des gros problèmes. Mais je pense que ce qui est mieux, c'est plus d'appeler le 811, info sociale, de voir que la personne rencontre une travailleuse sociale ou un psychologue ou un médecin qui fait des ajustements à sa pharmacothérapie, qui identifie c'est quoi le problème. Déjà, ça va rassurer le patient puis son entourage. Puis il y a plus de chances que ça s'améliore. Je pense que, tu sais, surtout ces temps-ci, personne n'a tant envie d'être à l'hôpital, là, surtout pour un trouble anxieux, là.
Est-ce qu'il faut, mais si on compare à d'autres maladies psychiatriques, là, est-ce qu'il faut penser au risque de suicide? Est-ce que c'est plus prévalent?
Oui, c'est possible. Là. Oui, c'est le genre de choses à dépister. Puis oui, c'est le genre de choses à savoir. Est-ce que la personne est quand même capable de s'occuper d'elle-même puis des personnes à sa charge? Là, dans ce sens-là, oui. Mais c'est rare que ça nécessite nécessairement une hospitalisation. Mais oui, les gens peuvent être découragés de ça puis faire des tentatives de suicide. C'est le stress post-traumatique. La plupart des gens vont comme développer une toxicomanie, tu sais, d'alcool ou de benzo ou de toutes sortes d'affaires qu'ils vont essayer de prendre pour se geler puis éviter de penser à leur trauma puis être capable de dormir un peu, là. Fait que je pense qu'il y a toutes ces choses-là à côté qu'il faut s'assurer qu'ils sont d'une certaine façon sécuritaires, là.
OK. Écoute, c'était un survol, on s'entend. Hein? Si on a encore des questions là, puis qu'on veut se renseigner ou savoir qu'est-ce qui est les textes les plus importants, est-ce que tu pourrais me parler des références que tu utilises?
Il y a les lignes directrices canadiennes. C'est sûr qu'ils datent déjà de 2014, là, mais en fait, il n'y a pas tant d'autres lignes directrices qui sont vraiment meilleures, bien, ou en fait, pas pour tous les troubles anxieux ensemble. Pour bien décrire c'est quoi chaque trouble, les premières, deuxième ligne, troisième ligne, les principes de traitement, etc. Je pense que les lignes directrices canadiennes font encore un très bon tour.
Donc, est-ce que tu as un message clé, quelque chose à ajouter? Là, on a fait un survol et peut-être des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter pour le bénéfice de nos auditeurs?
Oui, bien, je veux juste que les gens se souviennent qu'en trouble anxieux, la dose minimale efficace, ça peut marcher, là, mais souvent, ça prend plus la dose maximale tolérée. Je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer tant que le patient le tolère. Ça ne veut pas dire de titrer vite, hein, surtout en trouble panique. On peut exacerber le patient au début si on titre trop vite notre ISRS, mais je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer lentement puis de viser une dose tolérée, surtout que les effets secondaires, par exemple, des ISRS ne sont pas tant dose dépendants. Fait que je pense que ça vaut la peine de rassurer le patient puis d'avoir des attentes réalistes aussi sur quand est-ce que ça va faire effet. La psychothérapie devrait être offerte à tout le monde puis encouragée. Puis après ça, ben, je pense que pour les pharmaciens aussi, l'autre chose à savoir, c'est par rapport au sevrage des molécules. Tu sais, on a comme des recettes un peu préétablies pour tout le monde, mais ça se peut, surtout chez les patients anxieux, que ça prenne des mois à sevrer les molécules. Puis c'est pas problématique, là. Je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute au patient puis le croire, là, même si on considère que 5 mg de citalopram, ça ne devrait pas faire une différence chez le patient, mais ça se peut très bien que notre patient devant nous, oui, ça fasse une différence, puis qu'il faut sevrer encore plus tranquillement, puis peut-être même faire des formes pharmaceutiques spéciales pour les entre-deux doses. Là.
Bon, mais je te remercie, Violaine, d'avoir accepté notre invitation. Je suis content qu'on ait fait un survol là, des troubles anxieux.
Bien, merci de l'invitation. Je pense que ça concerne quand même vraiment beaucoup de gens, puis ça vaut la peine, comme pharmacien, de prendre le temps de s'asseoir avec le patient, d'avoir des attentes réalistes, puis des craintes réalistes aussi par rapport aux effets secondaires qui n'arrivent pas chez tout le monde, mais qui vont plus arriver chez nos anxieux qui ont peur que ça arrive. Fait que de déconstruire tous ces mythes-là puis d'y aller tranquillement, c'est très possible d'avoir un bon contrôle de son anxiété.
Voici qui conclut cet épisode de Très Pharmacien. Au prochain épisode, votre animatrice habituelle sera de retour pour discuter des urgences hypertensives avec Marie-Ève Tourigny-Poirier du CHU de Québec Université.
En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A2B3 Montréal, Québec. Merci.
On the air, live for CKUT. Oh, what? CKUT. CKUT.
Hello, my name is Alia. I'm at CKUT in Montreal, 90.3 FM. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world.
Now more than ever, the simplest gestures are our best protection to fight the virus. That's why we need to continue following basic health measures, such as keeping a 2-meter distance from others, wearing a mask and washing our hands regularly. Avoid travel and non-essential trips. And if you develop symptoms, be sure to get tested promptly and follow self-isolation guidelines. See all of the measures in place at quebec.ca/coronavirus. Let's continue to protect ourselves. A message from the Gouvernement du Québec.
Spread your wings. One-stop Caribbean cuisine for the best in Caribbean dishes. Come visit us and enjoy our specialties such as oxtail, jerk chicken, roti, and many more. Ask about our $8 lunch special on any chicken plates from Tuesdays to Fridays, 11 a.m. to 2 p.m. Also try our famous crispy fried chicken dipped in our special barbecue sauce. You can order online through your preferred restaurant apps or call 514-365-3636 or enjoy a 10% discount and all in-store pickup. This don't apply to promote.